Quand avons-nous besoin de la moralité? Est-ce que nous en avons besoin, d'abord? Et de quelle manière ou en tant que quoi nous en avons besoin? Est-ce que nous en avons besoin en tant que personne ordinaire, que membre ordinaire d'une communauté, et à quel moment nous en avons besoin? Et en tant qu'anthropologue, que sociologue, quand avons-nous besoin de la moralité comme concept? Donc c'est un peu ces deux questions que j'aimerais essayer de poursuivre aujourd'hui. Alors peut-être pour avant vraiment d'entamer cette question, je voudrais peut-être revenir sur deux, trois définitions fondamentales, notamment par des anthropologues et des sociologues comme Marcel Mauss ou Émile Durkheim, qui proposent, les descriptions les plus articulées de ce que pourrait être la moralité pour des anthropologues. Alors je dirais d'une certaine manière, les anthropologues ou les sociologues définissent la moralité non comme des phénomènes en soi moraux, mais plutôt comme ce qui est pris ou conçu comme moral par les individus d'une communauté donnée. Finalement, c'est une sorte de posture morale que nous adoptons en tant que membres d'une collectivité qui nous permet de compter certains phénomènes comme étant moraux, et n'importe quel phénomène en fait peut être considéré comme moral, du durian au code vestimentaire, à la nourriture, à la sexualité, etc. Donc c'est vraiment une opération de compter comme moraux certains phénomènes. Pour Mauss aussi, il n'y a pas de différence a priori entre les phénomènes sociaux et les phénomènes moraux. Les deux couvrent finalement ce que le groupe est habitué à faire, les manières de faire et de penser du groupe, et les principes moraux, les règles de loi, mais aussi les mœurs, sont autant de manières d'imposer aux individus ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser. Pour Durkheim aussi, il n'y a pas de définition ou de distinction a priori, mais il y en a une, je vais y revenir. C'est l'opinion qui dicte les règles morales et qui, directement ou indirectement, va sanctionner leur transgression. Je dirais qu'il y a une sorte d'assomption de base, notamment chez Durkheim, qui est très importante, on va y revenir. C'est l'idée que la violation d'une règle morale n'est pas intrinsèquement fausse, mauvaise, elle est rendue fausse par la présence de règles externes. Donc il n'y a pas de phénomène intrinsèquement moraux, il va toujours avoir cette attitude morale qui les rend moraux, qui en font un enjeu de moralité. Alors je dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve chez Durkheim une forme de dilemme. On a beaucoup parlé des dilemmes comme le trolley, des dilemmes moraux, etc. Mais on trouve aussi chez les sociologues, nos ancêtres, si on veut, aussi des formes de dilemmes sociaux qui sont très représentatives de ce que morale veut dire aussi pour les sociologues. C'est le cas du dilemme de Durkheim, qui est celui qui va reprendre à Rousseau. Durkheim était un très grand lecteur de Rousseau, et c'est de là qu'il tire en partie sa théorie de ce qu'il appelle l'homo duplex. C'est quoi l'homo duplex? C'est que nous sommes tous dédoublés entre, d'une part, un individu en jeu, avec sa propre volonté individuelle, ce que maintenant les philosophes analytiques appellent le « I-mode », et le « We-mode », qui est finalement nous en tant que membres d'une communauté et en tant que suppôts de représentation collective. Et Durkheim cite avec admiration la phrase de Rousseau dans « Émile sur l'éducation » comme suit. « Il y avait un jour une femme spartiate qui avait 5 enfants à l'armée. Elle croise un zélote qui arrive après la bataille. Tremblant, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et le zélote lui répond « Je suis désolé, vos 5 fils sont morts. » Elle dit « Mais espèce de stupide esclave, est-ce que je t'ai demandé ça ? Nous avons gagné la victoire. » Elle se précipite au temple et rend grâce aux dieux. Ça, c'est une citoyenne. Alors, ce qui est intéressant dans ce modèle de l'homo duplex chez Durkheim, c'est qu'il pose bien ce que veut dire la morale pour beaucoup de sociologues, mais aussi pour de psychologues actuellement. La morale est toujours considérée comme un tiraillement entre un intérêt individuel qui est élargi à la parenté, aux proches, et de l'autre côté, ce qu'on est supposé faire en adoptant le point de vue du groupe, le point de vue du collectif. Et finalement, on retrouve exactement la traduction du problème spartiate, enfin, qui n'est pas forcément un problème pour la femme spartiate, chez Green, chez Joshua Green. C'est celle du dilemme du bébé qui pleure. Donc, c'est le temps de la guerre. Vous et vos amis villageois vous êtes en train de vous cacher pour fuir des soldats ennemis. Votre bébé commence à pleurer. Et si vous couvrez la bouche de votre bébé pour l'empêcher de crier, les soldats ne vont pas vous trouver. Mais il faut pour ça l'étouffer. Donc il faut sacrifier votre bébé pour pouvoir sauver le collectif. Et donc on retrouve là encore ce choix cornélien entre l'intérêt individuel étendu aux proches et l'intérêt du collectif. Alors je dirais le point de vue durkheimien maussien, de manière intéressante aussi, a conduit les sociologues et les anthropologues à s'intéresser justement à cette fameuse posture morale, en se disant la posture morale, par définition, puisqu'elle n'est pas, il n'y a rien d'intrinsèquement faux ou mauvais, il faut simplement cartographier, enfin simplement, c'est déjà très compliqué, il faut cartographier ce qui est considéré comme moral à un moment donné. Et donc ça veut dire que la morale, par définition, elle dépend du contexte. Et donc ça a conduit certains sociologues, certains historiens à se poser à poser même des questions qui nous semblent a priori impossibles à poser, notamment la morale en situation de guerre, en se disant, voilà, si on part du principe d'une posture morale, on peut parler notamment de la moralité du soldat. Alors, je viens de lire ce livre très impressionnant que je vous recommande, de Neitzel et Welser, qui s'appelle Soldiers. Et qui interpelle, je dirais, le sociologue et ses assumptions fondamentales de manière extrêmement profonde. Pourquoi ? C'est qu'en fait, il montre comment les soldats, parce qu'en fait, ils ont trouvé des archives absolument extraordinaires, ils ont trouvé des procès-verbaux d'Américains et d'Anglais qui ont noté toutes les conversations que les soldats allemands avaient dans les prisons américaines. Juste après la Seconde Guerre mondiale, enfin, qui étaient emprisonnés en l'occurrence dans les années 40. Et en fait, ces procès-verbaux sont des conversations entre soldats, entre officiers, enfin, qui ignorent complètement qu'ils sont écoutés par des externes et encore plus par des Américains ou des Anglais. Et ce qui est tout à fait bouleversant, il y a 17 000 pages d'archives et de procès-verbaux, ce qui est absolument bouleversant dans ces témoignages, c'est qu'en fait, on ne retrouve pas la trace d'une seule moralité au sens de l'aversion à la douleur d'autrui. Au contraire, j'ai mis juste quelques extraits, mais en gros, ce qu'on retrouve, c'est le plaisir de tuer, de manière extrêmement systématique. Les seuls regrets que formulent les soldats, c'est par exemple quand ils ont tué des chevaux. Ils disent ça, les chevaux, j'ai eu vraiment de la peine à digérer. Et donc, ils racontent de manière très précise entre eux comment le premier jour, c'était un peu embêtant de tuer des gens, le deuxième jour, ils s'habituaient, le troisième jour, ils avaient du plaisir. Donc, bien sûr, ce que ces exemples posent, c'est de se demander est-ce qu'il y a encore de la morale ? Est-ce qu'au sein du monde des soldats, il y a quelque chose qui s'appelle, qui ferait sens de parler de morale ? Et en fait, d'une certaine manière, oui, puisque la seule chose qui ressort, qui pourrait être de l'ordre de la moralité dans le système de valeurs militaires, c'est justement qu'en principe, on ne tue pas les chevaux et qu'on n'abat jamais un pilote militaire qui saute d'un avion. Mais autrement, il n'y a aucune différence entre les soldats et les civils, les femmes et les enfants. Ils parlent des meurtres de femmes avec poussettes avec autant de plaisir et d'enthousiasme que des soldats. Donc c'est un peu ce genre de travaux qui nous encourage à une forme de relativisme moral radical. On se dit, mais voilà, on n'arrive pas à sauver un principe, ni celui de fairness, ni celui de harm avoidance. On a l'impression qu'il y a tout qui passe à la trappe. Donc ça, c'est un peu jusqu'où pourrait aller la théorie des sociologues et des anthropologues. Et d'un autre côté, parce que là, je fais juste une sorte de résumé, d'un autre côté, il y a les approches par les cognitivistes qui se demandent, eux, ce que c'est que la morale, en disant la morale, ce n'est pas juste une posture morale, de ce qui compte comme morale par une communauté, mais il y a bien quelque chose qui est l'ordre de phénomènes intrinsèquement moraux. Et donc, c'est le. Alors après, là, il va y avoir une discussion sur qu'est-ce qui serait intrinsèquement moral. Et c'est ce qui est discuté dans les approches dites domaines spécifiques, hein, de la cognition morale. Alors on peut très, très brièvement, hein, c'est des raccourcis, on peut dire qu'il y a des approches relativement minimalistes en disant que ça tournerait notamment autour de l'aversion à la douleur d'autrui. Notamment, Blair a suggéré qu'on aurait une sorte de mécanisme d'inhibition de la violence qui nous conduirait à retenir notre violence et à avoir une certaine aversion par rapport à la douleur d'autrui. Il y a des comptes rendus, que je dirais intermédiaires, qui englobent le principe d'équité, les droits, le bien-être d'autrui, et qui ont notamment été popularisés par les approches de Turiel, Nucci, Smetana, etc., et qui sont aujourd'hui confirmées par des collègues de Tomasello. C'est la distinction entre les règles conventionnelles, qui seraient par exemple le fait de ne pas porter des pyjamas à l'école, et les règles qui seraient indépendantes de la culture, qui seraient des règles fondamentalement morales et qui concerneraient le bien d'autrui, le fait qu'on ne fait pas de mal à autrui, etc. Et donc on aurait, pour Turiel et les autres, on aurait une sorte d'intuition très jeune de cette distinction, et que même s'il y a des autorisations de la part d'institutions ou des figures d'autorité comme quoi on peut taper une autre personne, ce serait jamais considéré comme vraiment admissible, en tout cas par les jeunes enfants. Et enfin, on aurait des approches plus maximalistes, je dirais, notamment celle de Hyde, qui propose cinq sortes d'intuitions fondamentales, qui seraient la douleur, l'équité, la loyauté in-group, out-group, le respect et l'obéissance à l'autorité, et une sorte de purité corporelle et spirituelle. On a aussi tous les travaux maintenant sur la pro-socialité, qui est souvent tirée vers la morale. Hein, la pro-socialité, c'est toutes les actions qui seraient effectuées dans l'intention de bénéficier à autrui, que ce soit aider, partager, coopérer, consoler, etc. Un autre point, alors, que je trouve extrêmement intéressant, hein, c'est que les travaux des cognitivistes sur la cognition morale s'accordent, je crois, de manière assez forte sur l'idée qu'on aurait une sorte d'un processus dual de traitement de l'information concernant les faits moraux. On aurait des jugements très intuitifs qui seraient basés sur l'émotion, ou des gut feelings, des émotions, des tripes, qui nous indiquent que là, il y a quelque chose, une violation morale de très bas niveau qui a été repérée. Et enfin, on aurait des raisonnements moraux et des principes de beaucoup plus haut niveau, qui sont des principes directifs, et qui peuvent être enrichis progressivement, pas dans le développement. On peut acquérir de nouveaux principes. Par exemple, on pourrait imaginer que des tabous, des interdits religieux, etc., deviennent des principes de haut niveau, mais qu'après, ces principes de haut niveau, enfin, une des grandes questions qui est encore pour l'instant restée sans réponse, c'est: est-ce que ces principes de haut niveau ont des effets top-down? Est-ce qu'ils vont... ils vont redescendre au bas niveau et devenir complètement intuitifs? Ça, c'est une question qui reste tout à fait ouverte. Alors, les cognitivistes intéressés par la morale donc vont chercher les fondations de la pensée morale et de l'action morale. Ils vont avoir tendance à la trouver relativement tôt. Notamment, c'est les évaluations par les jeunes enfants des comportements d'aide ou des comportements, au contraire, de non-aide ou de blocage, en quelque sorte. Alors, quels seraient, dans ce bref panorama, hein, quels seraient les accords et les désaccords entre les approches culturalistes et les approches cognitivistes, en quelque sorte? On peut dire qu'il y a quand même des accords potentiels, donc ce serait une bonne nouvelle. Et je pense que c'est notamment grâce à Durkheim, à mon avis, qu'il y a un accord qui peut s'organiser, de manière un peu surprenante. C'est que les faits moraux sont reconnaissables parce qu'ils ne sont non seulement obligatoires, mais ils ont quelque chose de fondamentalement désirable. Et en fait, on trouve bien chez Durkheim une distinction, même si elle est ténue, elle arrive finalement tard dans son œuvre, entre le fait que les faits sociaux sont reconnaissables par leur force externe d'obligation, qui s'impose aux individus, alors que les faits moraux, même si, bien sûr, ils font partie de la famille des faits sociaux, mais ils sont ils deviennent désirables. Il y a toute une désirabilité qui serait propre aux faits moraux. Une deuxième peut-être piste d'accord entre les anthropologues et les cognitivistes, ce serait le fait qu'il y a un moyen de reconnaître ces principes moraux, et un moyen de reconnaître ces principes moraux, ce serait grâce à leur... Alors j'ai mis prétention en parenthèse, vous allez voir pourquoi, que les principes moraux seraient reconnaissables grâce à leur généralisabilité, leur impersonnalité, leur degré d'obligation et leur indépendance d'une autorité ou d'une sanction. Alors bien sûr, le désaccord, ça va porter sur l'existence d'intuitions morales universelles. Pensez aux soldats, ils ont l'air d'avoir perdu leurs intuitions morales, comment ça se fait? Et bien sûr, c'est aussi au niveau de la prétention, pour les culturalistes, je dirais en tout cas les purs et durs, les principes moraux doivent être repérés grâce à leur prétention de généralisabilité, de leur personnalité, etc. Mais ils ne seraient pas intrinsèquement, en quelque sorte. Alors que pour les cognitivistes, certains principes seraient intrinsèquement généralisables, obligatoires, etc. Donc il me semble que c'est à ce niveau-là qu'on doit discuter, en fait. Alors peut-être pour résumer, hein, si on essaye de faire une cartographie de la cognition morale, elle se trouve en interaction des fois très proche avec d'autres types de domaines d'entités et de principes cognitifs en quelque sorte. Alors il y a le domaine psychologique, hein, qui est la théorie de l'esprit, en intersection avec le domaine moral, notamment au niveau de la question de l'intentionnalité ou de l'accidentalité. Excusez-moi, je fais un peu des anglicismes, le côté contingent d'une action. Est-ce qu'elle est intentionnelle? Il y a toute la question de l'intentionnalité, du degré d'intentionnalité qui permet de faire un pont entre le domaine, la question morale et la question mentale, en quelque sorte. Mais il y a aussi d'autres types d'intersections qui est entre le domaine social et le domaine moral. Et c'est notamment la question de l'appartenance de groupe. Et que certains, comme Hyde, vont mettre dans la morale. L'appartenance de groupe, la loyauté au groupe est quelque chose que Hyde va mettre dans le domaine moral, ce qui est d'une certaine manière extrêmement surprenant. Et bien sûr, la question des règles et des droits et des devoirs, est-ce qu'on a un moyen de distinguer entre les règles et les devoirs moraux et les règles et les devoirs sociaux? C'est bien entendu extrêmement difficile. Et il y a une ligne très fine, s'il y a une ligne, qui les distingue. Alors pour essayer d'amener ma propre contribution un peu à cette cartographie, je voudrais partir de quelque chose de relativement général et d'assez principiel qui serait la question de l'ordre déontique, donc de l'ordre de ce que l'on devrait faire et que l'on trouve notamment chez les primates non humains. Je pense que de partir des primates non humains, c'est toujours une bonne manière de reconstruire progressivement ce qu'on a besoin pour caractériser par contraste ce qui pourrait être la moralité humaine. Alors la normativité primitive des primates, hein, alors, il y a des gens qui contesteraient même l'usage de normativité chez les primates, mais à mon avis, ils ont une définition beaucoup trop étroite de ce que normativité veut dire. On peut effectivement saisir une forme de logique déontique, de logique de devoir-faire dans les relations sociales chez les primates non humains. Ils ont des droits et des obligations, mais elles sont inhérentes au type de relations sociales qu'ils entretiennent avec autrui. Et donc il y a des droits et des devoirs qui sont inhérents au fait d'être dominant-dominé, au fait d'être parent, au fait d'être congénère ou d'être membre du même groupe. Et ce qui est tout à fait intéressant quand on réfléchit aux primates en termes de normativité, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas, bien entendu, des normes détachées, des principes détachés des relations sociales, mais au contraire, par définition, les règles, elles sont implémentées et définissent ce que la relation sociale veut dire, en quelque sorte. Et donc, comme le suggère Jacques Endorf et maintenant Catherine Andrews, c'est bien les relations sociales et les positions sociales qui vont définir qui a une obligation par rapport à qui a le droit d'imposer des obligations, d'accorder des droits, et quel type de sanctions sont appropriées à telle transgression, en quelque sorte. C'est ce qui nous a conduit, Fabrice Clément et moi-même, à suggérer l'idée de l'existence d'affordance déontique chez les primates, hein, avec l'idée que les actions ont toujours une forme de demanding caractère, elles exigent une forme de contrepartie, enfin il y a un lien, une attente d'une suite logique à notre action, d'une suite socialement logique, socialement appropriée à notre action qui va être attendue. Et donc, c'est pourquoi des affordances déontiques, hein, j'ai pas tellement le temps de développer les théories des affordances, mais c'est bien l'idée que il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui va demander un certain type de réponse, un certain type de réaction de notre part, mais c'est pas seulement de l'ordre d'une possibilité. Je peux prendre ce verre, il afforde le fait que je peux le saisir, mais je dois le faire. Et ça, c'est un exemple que donne Jérôme Dokich. Alors, c'est un exemple qu'il est chez les primates humains. Il dit, ici, il y a une personne qui est en train d'appeler à l'aide et en train de se noyer. C'est pas juste, elle afforde pas juste le fait que je vais la sauver, que je peux la sauver comme une possibilité, mais que je devrais la sauver. C'est ça qui serait de l'ordre d'une affordance déontique. C'est ce que je suis censé faire en guise de réaction à telle ou telle action d'une autre personne. Et en fait, on retrouve ce que je devrais faire aussi chez les primates non humains. Il y a beaucoup de travaux qui montrent, par exemple, que les gestes, qui sont ancrés dans des gestes, hein, que le geste, par exemple, de demander de la nourriture ou de demander de l'aide de la part d'un chimpanzé va afforder une réponse appropriée de l'autre congénère, en l'occurrence une réponse qui est prosociale en quelque sorte. Donc c'est bien perçu comme une forme d'affordance déontique de la part des primates, en fait. Voilà ce que je devrais faire en réponse à ce geste de demande. Et donc on a l'impression qu'il y a une sensibilité assez précoce à des formes d'exigences déontiques, hein, même si c'est des exigences de relativement bas niveau, et que il y a bien l'idée, y compris chez les primates, qu'ils voient quelle est la chose appropriée à accomplir, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils devraient accomplir. Mais bien sûr, ça n'a pas à voir avec des principes moraux abstraits, hein, c'est quelque chose qui est complètement implémenté et quasi perceptible dans la situation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce côté quasi perceptible, en fait. Alors, par exemple, un exemple, c'est que quand un subordonné voit un dominant approcher, il sait qu'il doit lui laisser la nourriture. Et là, bien entendu, on voit bien qu'il n'y a pas de distinction entre le moral et le social. Ça ne ferait pas de sens d'en faire une. Dans ce cas-là, le devrait est simplement déontique. La distinction même entre social et moral ne fait pas encore sens, en quelque sorte. Et c'est justement cette question qui devrait nous préoccuper, puisqu'il s'agit de cognition morale et pas de cognition sociale en général. Est-ce qu'on a besoin, et quand on a besoin, de distinguer deux types d'affordances déontiques, les affordances déontiques qui seraient proprement sociales, comme le dominant subordonné, on voit bien que ça n'a rien de moral au sens un peu intuitif du terme, et des affordances déontiques qui seraient vraiment morales, comme celle de sauver la femme qui est en train de se noyer dans la rivière. Et ça, c'est extrêmement difficile, c'est une question extrêmement difficile à répondre, hein, parce que c'est vrai si on se pose la question, par exemple, des traits d'un petit chat ou d'un bébé, les traits du visage tout souriant, etc., est-ce que ça a bien un caractère d'affordance, hein, de s'en occuper, de soigner, etc. Ça a été montré par beaucoup de travaux, mais est-ce que ça... Ce côté affordantique de protéger un plus faible, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre du social ou du moral? Ça, c'est quelque chose qui reste difficile à répondre. Alors peut-être une des pistes, et ça c'est une piste bien sûr qui a été ouverte par beaucoup de personnes, peut-être qu'une possibilité de distinguer des affordances déontiques spécifiquement morales en partant des émotions, qu'il y aurait quelque chose de spécialement émouvant, émotionnant dans le type de réaction qu'appellent certains comportements, notamment celui de protection. Alors dans quel type de relations, puisque j'essaye de faire un lien interne pour encore maintenant entre les relations sociales et les règles qui les régulent et qui les définissent, dans quel type de relations on pourrait trouver ces affordances morales, en quelque sorte? Quel type de relations pourrait servir plutôt d'affordances morales? Alors le type de relation hein, qui appellerait au statut d'affordance morale, ce serait le type de relation que l'on pourrait nouer avec des proches et qui nous permettrait de tisser des relations qui sont des relations de proximité et des relations dans lesquelles on n'appréhende pas autrui comme le membre d'une catégorie, mais qu'on apprendrait autrui comme une personne en chair et en os, en quelque sorte. Et dans beaucoup de théories morales, ça tourne autour de ça, c'est l'autre apparaît pas comme une abstraction, il apparaît comme une vraie personne avec ses propres besoins, etc. Alors, est-ce qu'on aurait ça à notre disposition en tant qu'équipement relationnel et cognitif? Alors, pour certaines personnes, c'est bien le cas, hein, des gens comme Daniel Stern ou Trev Harten ont proposé l'idée d'une relation primordiale qui serait à la fois sociale et morale, donc on aurait encore cette assimilation entre le social et le moral, qui serait ce qu'ils appellent l'intersubjectivité primaire, c'est-à-dire ces liens de premier où il y a qui sont basés sur des ajustements ou des contingences très fines, comme dirait Olivier, ou des ajustements sensorimoteurs qui font que les personnes entrent dans une forme de nous très basique, très corporel, mais un nous où chacun entre entièrement en tant que participant, en quelque sorte. Et donc, c'est des relations qui sont au départ basées sur des ajustements sensorimoteurs. Hein. Les travaux de Stern montrent comment la mère et son bébé sont d'abord dans des ajustements ou des accordages complètement émotionnels qui sont basés sur des micro-mouvements corporels qui pourraient tout à fait établir cette social fluency dont parlait Fabrice. Hein, et on retrouve cette idée de presque de danse synchronique comme ça qui est essentiellement basée sur le sensorimoteur et qui petit à petit va s'élaborer et devenir plus complexe et plus sophistiqué. Alors après, je ne veux pas trop entrer dans ce débat parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont très sensibles à ce débat certains extrêmes auxquels ce débat a poussé. Hein, c'est celui pas vraiment directement des neurones miroirs, mais plutôt, je pense que c'est la seule chose sur laquelle on pourrait s'accorder, c'est l'idée que, comme Fabrice l'a rappelé avec les travaux de Julie Grez, on peut bien montrer qu'il y a, dans l'interaction de proximité entre deux êtres, des résonances motrices de bas niveau, en quelque sorte, qui nous permettent de faire des symétrisations neuronale, pour aller très vite, entre ce que l'on observe et ce que l'on accomplit. Donc, je n'ai pas encore dit que c'était moral, que c'était l'empathie, etc., parce que ça, c'est en effet allé beaucoup trop vite, mais il me semble qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a en tout cas une résonance motrice. Et pour certains, actuellement, il s'agirait même ce genre d'accordage ou d'alignement sensorimoteur, y compris d'activation neuronale en phase, en quelque sorte, serait la première brique, en quelque sorte, d'un oui mode, d'un mode en nous, en quelque sorte, qui travaillerait déjà au niveau neuronal à combler le fossé qui sépare soi-même et l'autre, en quelque sorte. On aurait pas cette difficulté qui est prégnante dans la morale très individualiste. Hein. Je suis un individu égoïste, comment diable je vais faire pour atteindre l'autre et prendre en compte les désirs d'autrui, puis encore les intérêts du collectif. Il y aurait quelque chose d'immédiat dans une forme de décentrement immédiat qui permettrait au jeu et au tu de se retrouver dans un nous. C'est en tout cas l'hypothèse de certains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces relations, ces nous potentiellement moraux, il y a l'idée que l'individu est directement affecté par la présence d'autrui, donc il y a l'air de choses de l'ordre très émotionnel, affecté aussi corporellement, et que cette affection mutuelle, en quelque sorte, va le conduire à reconnaître l'autre comme un « comme moi », comme l'a rappelé Fabrice, mais ou bien même plutôt comme le suggèrent Gegerli et Watson, comme « presque comme moi », parce que Gegerli et Watson ont fait une très très jolie expérience il y a quelques années, où ils montraient que les bébés, déjà extrêmement tôt, quand on leur montrait une vidéo complètement synchrone, on avait filmé les mouvements de leurs jambes, ben, ils ne regardaient pas, ils disaient « mais enfin, quel intérêt, c'est le mouvement de mes jambes en phase ». Mais quand ils passaient la même vidéo à tout petit peu décalé, donc c'était leurs jambes, mais qui tournaient en désynchronie, ils s'y intéressaient. Et donc c'est l'hypothèse de Gegerli, c'est de dire, c'est l'histoire de la contingence, en fait on bascule d'une parfaite similarité ou d'une parfaite mise en phase qui serait en fait très ennuyeuse à une contingence en fait. Dans la contingence, c'est déjà une action-réaction où il y a déjà la marque d'une forme d'altérité ou d'une forme de différence, une différence qui fait une différence. Je deviens un peu déridienne. Alors les relations intersubjectives, je pense que ce serait ça un peu le résumé qui a été proposé par Axel Honneth, hein, qui s'est beaucoup intéressé aux travaux de Stern. C'est l'idée que ces relations intersubjectives de proximité ou de nous basiques, en quelque sorte, sont potentiellement morales, parce qu'elles permettent une forme de reconnaissance mutuelle de l'un et de l'autre comme étant des êtres à part entière, en quelque sorte, comme étant des mêmes ou des presque mêmes. Ce fameux nous moral, ou supposément moral, a en fait des frontières sociales tout aussi précoces, puisqu'en effet, comme il l'a rappelé, les résonances motrices sont toujours conditionnelles, et très tôt, puisque l'appartenance de groupe, elle influence la mimicrie ou la résonance motrice et la résonance empathique, en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a une forme de catégorisation sociale extrêmement précoce et des préférences qui vont délimiter qui peuvent être les candidats à ce oui moral, ce nous moral, en quelque sorte. Et tout le monde n'y a pas droit à entrer dans ce nous de base, en quelque sorte. Et en effet, les travaux abondent pour montrer que l'appartenance sociale va déterminer qui vous pouvez aider, ou vous devez aider, vous devriez aider, qui afforde l'aide, enfin la réaction morale, et qui ne l'afforde pas, en quelque sorte. Et notamment, puisque bien sûr, il faut quand même parler du dilemme du trolley, sinon ça va trop vous manquer. Alors, dans les dilemmes du trolley, il y a des travaux qui sont tout à fait fascinants et assez effarants, qui ont effectué le test du trolley, avec une condition sous ocytocine. Et l'ocytocine, qui a été pendant très longtemps associée à l'histoire de l'hormone du lien, à l'hormone de l'amour, en fait, maintenant, s'avère de plus en plus avoir une sorte de côté sombre, en quelque sorte. L'ocytocine, elle a l'air de renforcer toutes les heuristiques sociales, en fait. Et parmi ces heuristiques sociales, il y a in-group et out-group qui semblent extrêmement basiques, au point que quand on fait le dilemme du trolley en mettant le bonhomme qui doit être sacrifié pour sauver les cinq autres, quand on met un out-group, en l'occurrence c'était pour des Hollandais, on mettait un Marocain qui devait être sacrifié pour sauver les autres, il n'y a aucune hésitation de la part de tous les Hollandais qui poussent le Marocain en bas du pont. Donc, ça veut dire que si on a des intuitions morales de bas niveau, et je pense que les travaux de Green et compagnie le montrent très bien, on voit que ces intuitions morales de très bas niveau, elles croisent tout de suite d'autres types d'heuristiques aussi de très bas niveau, qui sont celles de l'appartenance de groupe. Alors ça voudrait dire qu'on a bien une moralité et des propensions à entrer sous un mode moral en relation avec autrui, mais que c'est toujours relatif au contexte, et que même nos décisions morales, hein, qui sont y compris celles du dilemme du trolley, etc., elles sont elles sont extrêmement sensibles non seulement aux critères in-group et out-group, mais aussi à des heuristiques de conformité, par exemple. Et là, Kondo et Cummins viennent de sortir une étude un peu effarante où ils ont appliqué le paradigme de H aux dilemmes moraux, c'est-à-dire, par exemple, le dilemme du trolley où il y a 9 personnes qui disent c'est parfaitement OK de pousser l'un pour sauver les 3 autres, les 5 autres, etc. Et il y a une personne qui est évidemment le sujet testé, et le sujet testé, il s'aligne de manière assez massive à la majorité, en fait. Même si ça irait à l'encontre des intuitions morales a priori qu'il pourrait avoir. Alors, il y a aussi des travaux aussi très récents de Rod et Chalik, hein, qui est un papier qui vient de sortir, où ce qu'ils montrent, c'est que donc il y a bien les règles morales, mais que ces règles morales, elles sont morales uniquement pour votre groupe d'appartenance et elles sont conventionnelles pour les autres. Alors, comment ils ont testé ça? C'est-à-dire que ils ont refait l'expérience de Turiel, mais en rajoutant une condition in-group et out-group, en disant... Alors, il y a Zaz et Zaz qui sont en train de jouer ensemble. Est-ce que, si c'est autorisé dans son école, est-ce que c'est OK que Zaz 1, il tape Zaz 2? Et puis les enfants, ils disent non. Puis elle fait la même histoire avec Zaz d'un côté et Flurp de l'autre. Est-ce que c'est OK que Zaz, il tape Flurp si c'est autorisé? Il n'y a aucun problème. Et donc, on aurait aussi, là encore, chaque fois, c'est cette conditionnalité de l'appartenance de groupe qui semble complètement massive. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une manière de retrouver une assomption durkheimienne en l'amendant, en quelque sorte. C'est l'idée qu'il y a bien, quand on a affaire à un out-group, en quelque sorte, la violation de la règle morale, elle n'est pas intrinsèquement fausse. Elle est parfaitement autorisée. La violation de la règle morale est fausse uniquement quand il s'agit d'un in-group. Autrement, elle est juste faite fausse, elle est rendue fausse ou rendue mauvaise par la présence de règles externes, mais il suffit que les règles externes disparaissent pour que vous puissiez faire plus ou moins ce que vous voulez aux out-groups. Alors, comment expliquer cette heuristique extrêmement forte de l'appartenance sociale quand elle se rencontre ou elle clash avec les intuitions morales? Alors, pour des gens comme Paul Bloom, comme le rappelait Fabrice Clément, Bloom et son équipe sont en train de faire un revirement sur la question morale, justement parce qu'ils se heurtent à chaque fois à cette question de l'appartenance de groupe. Et ce que suggère Bloom dans un papier récent, c'est que l'anxiété de l'étranger qui apparaît très tôt chez les bébés à 9 mois, où ils paniquent dès qu'ils voient un étranger, en fait, elle disparaît jamais complètement, elle est toujours là, en quelque sorte. Et que finalement, on doit trouver des manières sociales de la dépasser, en quelque sorte, de la rationaliser. Et ça, de manière tout à fait intéressante, on retrouve cette idée d'anxiété de l'étranger, hein, aussi dans des travaux d'anthropologues ou de sociologues, notamment chez Erving Goffman, qui a une vision très paranoïaque de l'interaction interindividuelle, en disant, voilà, quand on est surtout dans un espace public où on croise toujours, par définition, des étrangers qu'on ne connaît pas, on a dû inventer... Des dispositifs interactionnels qui nous permettent de supporter la coexistence ou la cohabitation avec des étrangers. Et pour le faire, on a inventé, je le dis très vite, un peu narrative, on a dû inventer l'inattention civile, le fait qu'on se croise sans se regarder dans les yeux, parce que ça s'est perçu comme une agression, etc., en évitant le contact, en permettant les extravagances d'autrui avec une forme de relative indifférence. Et donc, pour Goffman, c'est l'idée que la cohabitation avec l'étranger est possible uniquement parce qu'on le considère comme une non-personne, en quelque sorte. Et c'est ça qui rend la possibilité de cohabiter avec lui tout à fait possible, et que l'indifférence du passant, qui a beaucoup secoué les psychologues sociaux, une expérience qui est très connue, hein, c'est en fait une forme de règle qui a permis de rendre cette coprésence possible. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est ce que Julien Bonhomme montre dans ses très beaux travaux sur les rumeurs sur le vol de pénis et de malédiction en Afrique, c'est qu'en fait, il faut avoir eu un dispositif goffmanien de régulation de la coprésence avec des étrangers pour pouvoir la supporter, et que quand on n'a pas ce dispositif de régulation par des règles impersonnelles d'évitement mutuel, etc., bien, on se trouve dans une situation complètement étrange, comme le dit Julien Bonhomme, on se trouve pris dans des interactions avec des étrangers et on n'a pas la manière d'y répondre, en quelque sorte. Et donc, on n'arrive pas à gérer la proximité et la distance avec cet étranger, parce qu'en fait, les Africains, notamment, ils ont l'habitude de serrer la main, d'être en contact même avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils commencent à leur parler dans le bus, etc. Et quand ils se trouvent dans des espaces, dans des grandes villes urbaines, tout d'un coup, ils se retrouvent à devoir serrer la main à des gens qui sont des parfaits inconnus. Alors que leur manière d'interagir, ça passe d'abord par les interactions de proximité, en quelque sorte. Et là, ils n'arrivent pas à suspendre leur régulation de proximité avec les étrangers, et ça les met dans une forme de tension insupportable entre la peur de l'étranger et la nécessité de continuer à garder le contact auquel ils sont habitués, en quelque sorte. Et c'est ce que montre Julien Bonhomme, hein, c'est ce qui conduit à des sortes de panique interactionnelle, en quelque sorte, où tout d'un coup, les gens commencent à se sentir liquéfiés, sentir leur sexe disparaître, etc., parce qu'ils viennent de toucher la main d'un étranger, quelqu'un les a regardés en face, etc. Et donc, là, ils perdent tout leur repère, en quelque sorte. Et s'ils perdent leur repère, c'est parce qu'ils n'ont pas encore acquis un nouveau répertoire interactionnel, goffmanien en quelque sorte, qui serait celui d'indifférence mutuelle et d'évitement du contact. Alors pour des gens comme Seabright ou Henrich, hein, c'est justement une des acquisitions des sociétés occidentales, c'est d'avoir réussi à répondre par des dispositifs plus sociaux que moraux, en fait, à la peur de l'étranger, qui sont des manières de... Parce que forcément, en tant que société occidentale, on est des sociétés commerçantes et qu'on doit tout le temps interagir avec des inconnus. Et que pour rendre cette interaction avec des inconnus supportable psychologiquement, pour surmonter notre peur de l'étranger, il a fallu passer par tous des dispositifs interactionnels indirects, en quelque sorte. Et notamment des règles économiques, mais aussi des règles morales, et notamment aussi des questions de réputation. Et c'est ce qui expliquerait, pour Henrich et Seabright, le fait que des comportements prosociaux avec les étrangers, en fait, semblent beaucoup plus naturels à des Occidentaux qu'à des Africains, par exemple, parce que simplement, ça fait partie d'une exigence de notre mode de vie que de tout le temps coexister avec des étrangers lointains. Alors ça me conduit à faire à interroger ce que j'appellerais le saut moral. Ce serait quoi à partir de tout ce que je viens de dire, qu'une forme de saut moral qui nous permettrait d'identifier ce que la moralité pourrait être. Alors ce saut moral, en fait, ce serait une manière de surmonter l'anxiété que soulève l'étranger. Et en fait, le vrai saut moral, si on veut, ce serait celui de la moralité en tant que telle, en tant que principe, si on veut. Ce serait d'étendre les frontières de ce nous de proximité, ce nous socio-moral expérimenté dans les résonances de proximité, de l'étendre à des nous distaux, des nous élargis, en quelque sorte. Ce serait un travail d'extension de ce qui compte comme semblable ou ce qui paraît être un candidat à l'appartenance à une même communauté envisageable, en quelque sorte. Donc, en gros, c'est d'étendre les frontières de l'in-group à l'ensemble de l'humanité. Ce serait ça le saut moral avec un grand majuscule, en quelque sorte. Et donc on passerait en effet d'une logique où c'est encore de manière imbriquée et socio et morale, hein, qui est celui de quelle est la chose appropriée à faire dans telle ou telle situation, à vraiment à faire la chose juste, en quelque sorte, avec une manière d'adopter la chose juste en passant généralement par des principes de plus haut niveau, des principes moraux de plus haut niveau. Ce saut moral, ce serait de ne pas considérer uniquement son voisin comme soi-même, mais n'importe qui, n'importe quel être humain comme soi-même. Et en fait, ce serait ça le grand saut moral qui semble extrêmement difficile à effectuer. Alors pourquoi c'est difficile à effectuer? J'aurais pas le temps de m'y attarder, mais c'est difficile à effectuer de point de vue cognitif, parce que ça nous demande une sorte de travail de l'imagination, puisque on doit travailler de manière abstraite en quelque sorte, à considérer n'importe qui, y compris les personnes qui ne sont pas spontanément familières, comme des êtres humains. Donc on doit passer par un principe d'équivalence qui est abstrait en quelque sorte, et qui force l'extension du nous au-delà de nos frontières sensibles, en quelque sorte, nos intuitions sensibles. C'est pas uniquement sur nos capacités cognitives que cette extension morale du nous repose, hein, bien entendu, que nous disposons en tant que société occidentale de tout l'ensemble de dispositifs et de médiations qui vont nous permettre d'élargir à plus large échelle le souci d'autrui, en quelque sorte. Et bien sûr, ça, c'est par la médiation de principes moraux, mais aussi de principes juridiques et tout un travail politique d'extension. Et c'est ce travail politique d'extension qui devrait nous permettre d'étendre nos intuitions morales du proche au lointain, en quelque sorte, et qui nous permettrait de faire l'équivalence que Green ne trouve pas dans ses résultats, par exemple dans les dilemmes personnels-impersonnels. Hein, en fait, le vrai saut moral devrait nous permettre de traiter ces deux situations comme équivalentes. Donc ce dilemme moral, c'est celui-là qui est présenté par Green, et qui dit comment expliquer que nous réagissons de manière complètement différente à ces deux types de dilemmes. Le premier, vous avez un étranger qui est en train de saigner au bord de la route, et vous ne voulez pas le prendre dans votre voiture parce qu'il va salir votre siège. Et l'autre situation, vous avez des gens qui sont très pauvres de l'autre côté du monde, et vous pouvez, au lieu de continuer à acheter des choses inutiles, des biens de consommation, etc., vous pouvez donner de l'argent pour les sauver. Et en fait, les réactions à ces deux dilemmes sont bien entendu le fait que dans le premier cas, qui pose un dilemme personnel, la personne doit impérativement aider l'étranger qui est au bord de la route. Mais par contre, quand on a affaire à des victimes impersonnelles et souvent invisibles, on peut très bien éviter de sacrifier ses biens, en quelque sorte. Et en fait, le vrai pas moral, ce serait de traiter de manière exactement équivalente ces deux situations, puisqu'il n'y aurait plus cette différence entre le personnel et l'impersonnel qui serait fondue dans un même collectif, en quelque sorte, d'appartenance. Alors, quels seraient les parcours, les différents parcours moraux, en quelque sorte, et quels seraient les différents types de moralité dont on pourrait bénéficier? Il me semble qu'on pourrait distinguer la morale par la perception, celle qui nous est immédiatement accessible grâce à nos prééquipements de mise en face, de résonance avec autrui, etc., et qui est le fait que la similarité d'autrui nous est immédiatement accessible dans l'expérience, en quelque sorte. On expérience la même-té par des expériences de fluency, de similarité, de synchronie, etc. On va expérimenter l'autre comme un même ou comme un non-même, suivant les situations. Par contre, la vraie moralité au sens vraiment normatif du terme, ça devrait être une moralité par l'imagination, où ça implique une forme de travail d'émancipation du ici et maintenant et de nos situations immédiatement familières, nos interactions interpersonnelles, pour atteindre des relations à distance et des relations indirectes qui restent malgré tout tout aussi valuable, enfin tout aussi importantes. Et donc c'est l'idée que d'étendre, ça c'est quelque chose qui a beaucoup préoccupé les sociologues pragmaticiens, notamment du début du siècle, comme John Dewey, c'est l'idée qu'il faut essayer de trouver une manière d'étendre nos communautés morales de proximité, qui sont assurées par des liens d'entraide et de coopération avec les proches, la famille, les voisins, etc., ces liens de coopération, comment dire, implémentés dans nos pratiques quotidiennes, et les étendre à des entités abstraites qui seraient, en l'occurrence, la communauté imaginée. Et tout la question de Dewey, c'est celle-ci, hein, c'est comment imaginer un monde commun avec des étrangers, quel type de moralité doit sous-tendre ce défi impossible, en fait. Et donc ça requiert, bien sûr, tout un travail d'imagination, un travail du langage qui va nous permettre de décrocher, comme le suggère de Judith Deloche, hein, par définition, le symbolisme, c'est une manière de nous détacher de nos sens directs et d'avoir une représentation dédoublée entre la situation actuelle et quelque chose qui tient lieu ou qui s'y réfère de manière séparée. De certaine manière, la moralité comme extension d'un nous exige que l'on passe justement du nous expérimenté ou senti à un nous complètement abstrait, donc à un nous complètement symbolique, qui nous permet de compter un étranger comme un même, en quelque sorte. Et ça, c'est un travail d'imagination, de symbolisation extrêmement fort. Alors, justement, peut-être pour faire le lien, parce que vous avez demandé quel est le lien entre mes affordances déontiques du début et ma morale de haut niveau imaginative à la fin, il me semble qu'il y a une intuition extrêmement intéressante dans les travaux de Michel Meyer, que je vais juste mentionner maintenant. Donc, juste comme rappel, vous rappelez-vous le dilemme durkheimien, de la spartiate, on voit bien que la moralité, c'est un conflit entre le « je » et le « nous », en quelque sorte, comment décrocher de ce « je » de proximité à un « nous » plus élargi, à se demander si la moralité, elle n'est pas posée en des termes erronés. C'est ce que disait Maurice Bloch l'autre jour. Est-ce que la moralité, ce n'est pas finalement une question qui est individualiste et ethnocentrique? Est-ce que de partir de l'individu pour essayer de me demander mais comment diable il va atteindre le collectif, est-ce que ce n'est pas une question qui est simplement mal posée, en tout cas pour une grande partie des collectivités? Et en effet, on a l'impression que la question morale est souvent réduite dans les travaux actuels sur une sorte de travail de contre-nature où il y aurait égo qui doit agir sans égo, en quelque sorte, qui est une sorte de contradiction dans les termes. Donc, mais comment c'est possible, en fait? Et c'est d'ailleurs exactement ce que suggère Westermarck, et qui se pose cette question qui résume très bien la question de la morale individualiste. Quel est cet autre au plus grand bien duquel je ne dois pas préférer mon bien propre, fût-il moindre? Est-ce un compatriote, un sauvage, un criminel, un poisson, un oiseau, tous sans distinction? Et donc il y a cette idée de quel droit, en fait, me priver de mes droits? C'est un peu ça, ce serait ça la question morale. Il me semble que si on pose la question morale d'une autre manière, avec toujours cette idée des affordances déontiques liées à des types de relations sociales à l'esprit, il me semble que peut-être on arrive à s'en sortir. Et c'est ce que propose Michel Meyer, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Principia Moralia ». Et qu'en gros, ce qu'il propose, c'est de dire, posons la question morale non à partir de l'individu qui doit essayer d'atteindre le collectif comme il peut, mais essayons de partir de la relation elle-même entre soi et autrui. Et finalement, la définition qu'il propose, c'est que la moralité, c'est la question, c'est la réponse à la distance qui sépare les individus entre eux. Et suivant le type de relation et le type de proximité et de distance qu'on a avec autrui, la réponse morale est complètement différente, en quelque sorte. Et donc, c'est l'idée que la moralité, c'est une question inhérente au type de relation sociale et qu'elle ne se pose pas indépendamment des relations sociales. C'est une question incarnée, en quelque sorte. Et un autre point, alors ça, ce serait plutôt mon point, c'est que la moralité, elle est nécessaire finalement quand les affordances déontiques qui seraient inhérentes aux relations sociales, qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation sociale, elle n'est pas présente parce que justement on a affaire à des étrangers. Et là, la question ou à des désaccords en fait sur le comment faire ou le quoi faire qui nous force à référer à des principes de plus haut niveau en quelque sorte. Puisque justement, la manière dont censé se comporter n'apparaît plus comme évidente. Et donc, dans cette perspective, la moralité, c'est une forme de réducteur de la distance, précisément qui nous permet de remplacer, en fait, les affordances déontiques par des principes. Donc, la moralité, c'est une sorte, comme pour reprendre l'expression de Jérôme Brunner, c'est des sortes de prosthetic devices, des sortes de prothèses, qui nous permettent de remplacer les affordances déontiques immédiatement disponibles dans une situation par des principes abstraits qui sont là pour nous permettre de résoudre des désaccords ou pour trouver une manière de répondre à l'autre, y compris et surtout l'étranger. Ce qui est en substance dans l'idée d'un « nous » de proximité, d'appartenance, la manière dont on reconnaît la moralité, c'est qu'elle est fondamentalement liée à l'affect, en quelque sorte. L'autre nous affecte d'une certaine manière, et que finalement, le domaine moral peut être identifié grâce aux émotions qu'il va susciter. Et parmi les candidats à l'émotion morale majuscule, en quelque sorte, je pense que l'indignation, c'est une des meilleures hypothèses, et celle notamment de Kahneman et Sunstein, de dire si un universel... universelle caractéristique de la morale, c'est bien celle de l'indignation. Pourquoi? C'est que l'indignation, c'est une forme de, non seulement de refus de quelque chose d'insupportable, mais c'est un refus qui a une prétention à l'universalité. Quand vous êtes indigné, vous pensez que cette indignation est universellement partageable, donc ce serait un indice d'une vraie transgression morale. Et donc ce serait une manière de sauver quand même un micro principe universel, hein. Ce serait celui de aussi là perceptible de la douleur effectuée à autrui. Il y a quelque chose là, c'est une image que je montrais à mes deux filles quand elles avaient même pas une année. Et les deux, sans que je leur ai absolument rien dit, elles commençaient à taper sur le méchant. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du perceptif insupportable dans ce genre d'image qui suscite une forme d'aversion. Et donc on retrouve l'idée d'affordance, mais ce serait une affordance là aussi très minimale. Hein, c'est que faire du mal à autrui, quand c'est perceptible de cette manière incarnée, etc., ça a le statut d'affordance en quelque sorte. Donc. Et donc, l'aversion à la douleur d'autrui, ce serait une réaction universelle à la souffrance de quelqu'un, à condition toujours que ce quelqu'un est comme moi. Ce que j'ai essayé de proposer, hein, c'est qu'il y a bien une forme d'ancrage émotionnel d'un sens moral, hein, qui serait une forme de sens moral primitif, mais que ce sens moral primitif s'éveille quand autrui est suffisamment un même, mais par contre, il doit être éduqué et élevé par des principes abstraits d'équivalence pour pouvoir inclure des autres lointains, des autres différents, des autres étrangers en quelque sorte. Et c'est finalement ce que suggère Paul Bloom, hein, dans son dernier papier, où il dit que Rousseau est correct quand il dit qu'on est des êtres moraux quand ça concerne la famille et la communauté, mais Hobbes a parfaitement raison pour tout le reste en quelque sorte. Nous sommes des sauvages très nobles à la maison, mais nous sommes des brutes ailleurs, en quelque sorte. Et donc, c'est précisément le travail de la moralité, au sens moralité, en tant que domaine spécifique, propre domaine culturel, en quelque sorte, le travail de la moralité serait de surmonter cette politique des frontières de groupe qui nous serait complètement intuitive, en quelque sorte. Oui, comme je suis partie de ces deux questions, alors je dirais que pour répondre à la première, quand nous avons besoin de la moralité en tant qu'être humain ordinaire, je pense qu'on en a besoin pour avoir des transactions avec des étrangers qui nous sont inconnus et avec lesquels on ne dispose pas de règles ou d'affordances déontiques qui soient préétablies en quelque sorte. Donc on doit essayer de référer à des principes de plus haut niveau qui nous permettent de nous orienter en fait dans nos réactions par rapport à eux. Et quand nous aurions besoin de la moralité comme des anthropologues ou des sociologues, il me semble que la moralité, elle est nécessaire pour faire une sorte de cartographie des phénomènes qui suscitent des engagements émotionnels extrêmement forts, et donc de cartographier les phénomènes qui suscitent une posture morale de la part des individus. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que ces phénomènes sont intrinsèquement moraux, mais ils sont considérés comme moraux par les individus, et donc ils ont une valeur émotionnelle qui leur serait complètement spécifique.